Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Plus de vie. Je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et au verset 1. Il est écrit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans même, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. » Je vous propose donc de regarder à ce texte. La première chose que je vois, c'est qu'il y avait un homme qui était complètement alité, qui vivait comme ça et qui ne pouvait par lui-même se sortir de cet handicap. Il était bloqué sur son lit, il ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins, j'imagine. Il ne pouvait pas se lever, regarder les gens face à face, il était tout le temps par terre. Et les gens devaient le regarder depuis plus haut que lui. Donc peut-être que cette position était aussi humiliante pour lui. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui devait prendre soin de lui, devait le laver, devait le porter pour le déplacer d'un endroit à un autre. Des amis vont le prendre à cœur. C'est ça qui est intéressant vraiment pour moi dans ce texte. C'est non seulement que cet homme avait un grand besoin et qu'il a été guéri, mais c'est comment il a été guéri. On voit que cet homme va vivre un miracle de Jésus, il va être restauré, il va se lever à l'instant même, il va pouvoir porter son lit. Jésus va utiliser ce miracle pour montrer vraiment qu'il est capable de pardonner les péchés sur la terre. En même temps, c'est comment ça va se passer ? C'est que quatre amis vont avoir à cœur sa situation. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Avez-vous des amis ? Sommes-nous conscients aussi qu'il y a peut-être des amis qu'on ne soupçonne pas près de nous et qui seraient prêts à nous aider ? Peut-être que vous vous sentez seul dans votre situation, seul dans votre problème, seul dans votre incapacité à vous sortir de cette misère dans laquelle vous êtes. Et j'aimerais vous parler de quatre amis que nous avons tous et qui peuvent nous sortir, nous aider à vivre quelque chose de la part de Jésus pour sortir de la situation mauvaise dans laquelle nous sommes. Et j'irai même plus loin, peut-être qu'on se sent bien, que pour nous la vie est comme elle a toujours été, peut-être même que notre vie n'a pas besoin de changer, puisqu'après tout, on est né comme ça et on ne voit pas pourquoi ça changerait, on s'est accommodé des choses que l'on vit aujourd'hui, et ça nous va très bien. On a des amis tout près de nous qui aimeraient que nous vivions quelque chose avec Jésus et que notre vie soit transformée. Peut-être que cet homme se disait « Écoutez, je suis comme ça et je resterai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. » On ne voit pas que cet homme exerce une foi particulière. C'est ses amis qui vont avoir la foi pour lui. J'aimerais parler de quatre amis que vous avez et que j'ai. Je ne connais pas les prénoms des amis de cet homme, mais ce que je peux nous dire et nous rappeler, c'est que nous avons quatre amis dont l'un s'appelle la Bible. Connaissez-vous cet ami ? La Bible, que j'appelle la parole de Dieu, puisqu'elle contient les paroles qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu pour notre enseignement, eh bien la Bible est notre premier ami. Je crois que c'est important de nous rappeler ce que dit Romains chapitre 10, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui nous parle et il dit ainsi « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » ou de la parole de Dieu selon les traductions. La foi vient de la parole de Dieu ou la parole de Jésus, de son enseignement. Et dans la Bible est contenu tout ce qui est utile à notre enseignement. Et nous ne pouvons dire que nous avons la foi si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne l'écoutons pas, si nous ne la lisons pas et si nous ne la recevons pas. Et nous avons besoin de la foi, puisque la Bible déclare dans Hébreux que sans la foi, personne ne peut voir Dieu et lui être agréable. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et je pense que tout homme devrait s'inquiéter d'avoir une vie qui est agréable, un cœur qui est agréable à Dieu. Je ne parle pas forcément de notre passé, je ne parle pas du fait de ne jamais avoir commis d'erreur, mais je parle d'être en règle avec Dieu. Et que Dieu puisse dire, lorsque je regarde sa vie, eh bien oui, elle m'est agréable, je l'agrée, je suis d'accord. Même s'il y a eu des imperfections, tout a été effacé par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 119 et au verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » La Bible, la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, c'est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce monde qui est dans les ténèbres, il faut bien l'avouer, avec tout ce qu'on entend actuellement, avec les bruits de guerre, avec le terrorisme, avec la maladie, avec tout cela, avec la violence qu'il y a autour de nous, dans les quartiers, les rébellions, les soulèvements, avec tous ces ténèbres, nous avons bien besoin d'une lumière, une lumière qui est la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 11 et au verset 27, il est dit « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus va répondre « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux-là. Dans Actes chapitre 13, il est dit « Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » C'est quelque chose d'important qu'il y ait des rassemblements, qu'il y ait des réunions, des rendez-vous, appelez ça comme vous voulez, des messes, peu importe, où nous allons aussi entendre la parole de Dieu pour l'écouter et ne pas l'oublier. Ésaïe 40, verset 8 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Dans Proverbe 30, verset 5, « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Et Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour ne rien dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu nous parle pour nous bénir. Et celui qui se confie en Dieu, il a comme un bouclier lorsqu'il met la parole de Dieu devant lui et qu'il s'appuie sur elle. Je nous encourage à aller consulter, à aller demander à cet ami qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, de venir nous porter et nous placer dans la présence de Jésus. Ce n'est pas magique, ce n'est pas psychologique, mais c'est quelque chose de spirituel. Quand j'ouvre la Bible, que je me tiens devant elle et que je la lis de tout mon cœur, réalisons que je suis comme face au cœur de Dieu et que c'est comme une lettre d'amour et Dieu s'adresse à moi et il me parle. Quand j'ouvre la Bible, je peux croire de tout mon cœur que ce livre est inspiré, qu'il est voulu de Dieu, qu'il a été donné par Dieu en l'inspirant à tous ces auteurs qui ont participé à son écriture, afin que je sois enseigné, éduqué spirituellement, que je découvre Dieu, le Dieu créateur, l'Éternel, que je découvre ses projets, que je découvre tous ses conseils, la loi de Dieu aussi, ses préceptes, celui qui m'enseigne et qui me dit « ça, c'est bon pour toi, ça, c'est mauvais pour toi ». Voilà ceux qui ont fait ça, ils ont été bénis. Voilà ceux qui ont fait ça, se sont privés de la bénédiction et des promesses. Oui, les promesses, on peut les découvrir dans la Bible. Nous avons besoin de ce premier ami pour pouvoir être placés dans la présence de Jésus et que Jésus puisse eh bien, agir dans notre vie, que Jésus puisse agir dans votre vie puisqu'il est encore vivant. Aujourd'hui, il est ressuscité. Après être mort sur le bois de la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et la Bible déclare qu'il intercède pour nous. D'ailleurs, Jésus n'est-il pas appelé la parole faite chair ? Donc lorsque je consulte l'enseignement de Dieu qui est contenu dans la Bible, lorsque je vais vers la Bible, eh bien je me retrouve face à face avec Jésus lui-même et il peut agir dans ma vie. Et ce qui est comme sclérosé, bloqué dans ma vie et dans mon cœur, eh bien est complètement guéri parce que Jésus vient soigner mon cœur et cet ami, la Bible, me porte près de lui. Le deuxième ami, je voudrais vous donner un deuxième prénom, si je peux me permettre ainsi. Ce deuxième ami, c'est la prière. Dans Psaume chapitre 34 et verset 7, il est dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Prier, c'est quoi? C'est pas parler à Dieu simplement, c'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est s'adresser à lui, mais s'attendre à ce qu'il nous réponde. La prière, c'est ouvrir notre cœur à Dieu et lui dire tout ce qu'on ressent, que ce soit beau ou que ce soit triste, que ce soit plein de louanges, d'adoration ou que ce soit plein de doutes. La prière, c'est le moyen de dire à Dieu ce que l'on pense de tout notre cœur, nos soucis, nos besoins, nos malheurs, mais aussi notre joie, nos bonnes nouvelles, notre reconnaissance, nos actions de grâce, tout cela. C'est vraiment un moyen de dialoguer avec Dieu. Et je pourrais vous dire combien de fois où je me suis adressé à Dieu dans la prière et où j'ai senti spirituellement qu'il me répondait. Et comme par hasard, quelque temps plus tard, j'ai vu l'exaucement à ma prière ou d'autres situations comme cela. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je nous partage juste quelques textes pour nous encourager à la prière. Encore une fois, Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est important de faire connaître nos besoins à Dieu. Et on peut ne pas s'inquiéter. On sait que Dieu pourvoira à nos besoins. On le fait par des prières, des supplications. On n'oublie pas les actions de grâce, bien sûr. Et je sais que la paix vient en attendant que Dieu agisse. Dans Matthieu 21, 22, il est dit: « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Si c'était Jérémie Gadrois qui vous le disait, vous pourriez douter. Mais c'est Jésus lui-même qui a parlé. Et il le dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le tout, c'est de le faire selon la volonté de Dieu, bien sûr. Seigneur, je te prie de tout mon cœur de bénir chacune de nos vies, et je crois que le Seigneur le fait. Marc 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière nous sert à obtenir ce dont on a besoin, mais aussi la prière nous aide à tenir dans la tentation. Êtes-vous tenté de retourner vers une addiction? Êtes-vous tenté de baisser les bras, d'abandonner quelque chose, de renoncer à vos engagements? Eh bien, priez, veillez, dira Jésus, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, c'est Paul encore qui nous parle et qui dit « Priez sans cesse ». Un verset très très court, le deuxième verset le plus court de la Bible. Priez sans cesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit privilégié. J'ai pas besoin d'aller dans une église pour prier. J'ai pas besoin d'aller ou d'avoir une position particulière pour être entendu. Priez sans cesse, ça veut dire que je peux prier à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Il est bon d'aller à la prière de l'église. Lorsque l'église se rassemble pour prier, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voyait qu'il était écrit « À l'heure de la prière, ils allèrent au temple. » C'est bien qu'il y a des heures de rencontre où on prie en commun, mais la prière, ça peut être seul, ça peut être dans la voiture, ça peut être en couple, ça peut être en famille. L'important, c'est de prier sans cesse, d'être constamment en relation avec notre Créateur et avec notre Seigneur Jésus. La prière nous introduit en présence de Jésus comme cet ami a pris le paralytique et l'a descendu devant Jésus pour qu'il soit béni. Je crois de tout mon cœur que la prière, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un exercice difficile. La prière, c'est un ami pour nous. Et si nous nous exerçons à la prière, nous allons découvrir les merveilles de Dieu qu'il accomplira dans notre vie. Le troisième ami, c'est l'Église. L'Église n'est pas notre ennemi, l'Église c'est notre ami. L'Église c'est quoi? C'est l'union, l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau et qui font partie du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 12, Paul encore nous enseigne ceci. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Amen. On s'arrête là. Et juste ce texte nous parle de l'Église comme étant un corps avec plusieurs membres. Et il y a un lien entre chaque membre. Et tout membre est indispensable et important dans le corps. Il est bon que nous nous réunissions dans un même endroit, mais ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est le fait que nous avons été rachetés par Jésus-Christ sur le bois de la croix et que nous avons placé notre foi dans son œuvre. C'est important de réaliser que l'Église, c'est l'union de ces personnes qui sont là pour m'aider et m'encourager à la foi, pour que j'obtienne aussi de Jésus tout ce qu'il a prévu pour moi, mais aussi pour que je sois utile pour celui qui a besoin en ce moment. L'Église est mon ami et il me place devant Jésus parce que l'Église est là pour qu'on s'encourage les uns les autres et qu'on parvienne jusqu'au jour final de notre vie ou au jour où Jésus reviendra, eh bien, à aller au paradis ensemble. Le but de l'Église aussi, c'est d'aller chercher des estropiés, les malades, les paralytiques, tous ceux qui sont mis de côté pour leur dire « Venez, il y a un repas des noces, il y a quelque chose d'incroyable et de miraculeux que le Seigneur nous prépare dans le ciel et nous voulons que vous y participiez avec nous. » L'Église, ce qui veut dire l'Assemblée, ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est vraiment un ami. Bien sûr, comme c'est un corps et comme c'est une famille, ça, c'est aussi l'union des enfants de Dieu, et bien comme dans toute famille, il y a des fois des imperfections, il y a des querelles, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais ça n'empêche pas que l'Église est mon ami. Et je vous encourage à vous attacher à un groupe de l'Église, à une partie de l'Église qui est représentée dans votre ville, à laquelle vous pourrez vous joindre pendant ces réunions, pendant ces rendez-vous, et dans lesquelles vous pourrez aussi écouter la parole de Dieu, prier et vivre ce que Jésus a prévu pour vous. L'Église a un ministère, elle a une tâche, c'est de représenter le ciel sur terre. Et nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres pour que tous ceux qui sont comme paralysés dans leur vie puissent découvrir cette liberté qu'il y a en Christ. Il est écrit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Acte 12, verset 5. Le rôle de l'Église, c'est de porter les uns les autres dans la prière. Merci Seigneur pour l'Église, ce troisième ami que tu nous donnes et que nous voulons aimer, chérir et servir. Quatrième ami que je voudrais nous partager et que je voudrais nommer, c'est l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est important en ce temps de Pentecôte de nous rappeler qu'il y a un rôle particulier pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné aux hommes pour qu'ils puissent accomplir toute la volonté de Dieu, pour qu'ils puissent découvrir toute la force et la puissance que Dieu veut manifester en eux, pour aussi que le caractère de Christ puisse être façonné en eux, pour qu'ils puissent être mis en présence de Jésus et de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Ça nous est raconté dans plusieurs évangiles, particulièrement dans Marc, chapitre 1, verset 10, par exemple. Au moment où Jésus sortit de l'eau, c'est le jour de son baptême, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que j'aurais aimé être là ce jour-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Jésus se faire baptiser lorsqu'il sort de l'eau, cette colombe qui vient sur Jésus, qui est le Saint-Esprit qui vient le remplir. La Bible nous déclare que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission qu'il avait besoin d'accomplir et qu'il était venu accomplir. Je crois que c'est important. Si Jésus avait besoin de l'Esprit Saint pour accomplir ce qu'il devait accomplir, pour vivre ce qu'il devait vivre, pour faire les miracles qu'il avait besoin de faire, pour tenir bon dans l'adversité comme il allait devoir tenir bon, pour avoir les paroles bénissantes envers les hommes comme nous aussi nous sommes amenés à bénir les autres, alors nous aussi, à plus forte raison, on en a besoin. On a besoin de l'Esprit Saint, ce quatrième ami, pour pouvoir sortir de notre handicap, de notre malheur, de notre misère, de notre incapacité à nous lever et à marcher dans les voies de Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 13, il est écrit « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est important ça de demander le Saint-Esprit dans notre vie. Lorsqu'on commence dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, on réalise très très vite que, eh bien, au bout d'un moment, c'est pas si facile que ce qu'on aurait cru, c'est pas si facile que ce qu'on s'imaginait, et on réalise qu'on a besoin de quelque chose, de quelqu'un, pour pouvoir avancer. Et je rappelle, oui, que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une des trois personnes de la Trinité. C'est une personne qui peut être attristée, la Bible nous dit. Une personne qui peut nous parler. Une personne qui peut nous guider. Une personne qui peut nous approuver ou qui peut nous réprouver. Bref, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient dans notre vie. C'est vraiment un ami qui vient et qui, comme un coach, va nous montrer la marche à suivre, va nous encourager, va nous donner du discernement, va façonner en nous le caractère qu'avait Jésus. Je me rappelle de Galates, chapitre 5, verset 22, où il est écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de patience. Combien de fois je dis « Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite !» Non, ça marche pas, hein. « Donne-moi la patience, Seigneur, donne-moi de la bonté, donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Seigneur, je veux me sentir aimé et je veux arriver à aimer l'autre. Seigneur, donne-moi d'être fidèle, donne-moi d'avoir de la maîtrise de soi, d'avoir de la tempérance. » La Bible répond, et c'est ce que Paul dit aux Galates, « Vous avez besoin du Saint-Esprit, car le fruit de l'Esprit, c'est... » L'amour, la paix, la patience, la bonté, toutes ces choses jusqu'à la tempérance. Reprenez Galates 5, 22. Comparez-le avec Galates 5, 19, qui sont les œuvres de la chair. Et vous allez voir que vraiment, il y a quelque chose de bien différent. Et que pour ne pas tomber dans les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la méchanceté, les querelles, toutes ces choses-là, il y a le fruit de l'esprit qui est un caractère. Je ne sais pas si vous avez déjà médité là-dessus. On fait des mauvaises actions avec notre humanité pécheresse. Et Dieu transforme ça avec un caractère qui est le caractère de Christ, qui nous est donné par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de sa force, de sa joie. Et le Saint-Esprit nous est donné par Jésus-Christ. « Moi, je vous baptise dans l'eau, dira Jean, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Jésus a dit aussi « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà pour finir un petit peu avec ces quatre amis. Je rappelle un peu ces quatre amis. Le premier ami que nous avons, c'est la parole de Dieu. Le deuxième ami, c'est la prière. Le troisième ami, c'est l'Église. Et le quatrième ami, c'est le Saint-Esprit. Et si nous avons tous ces amis, toutes ces personnes, nous pouvons être mis en présence de Jésus et un miracle peut se passer. Alors, êtes-vous comme paralysé? Êtes-vous bloqué dans votre marche? Êtes-vous bloqué dans votre vie, dans votre marche spirituelle ou dans votre marche de tous les jours? J'aimerais que vous puissiez appeler ces quatre amis. Laissez-les venir dans votre vie. Laissez-les être vraiment vos amis et vous porter en présence de Jésus. Et vous verrez si Jésus vous laisse paralytique ou s'il vous permet de vous relever. Ces instants s'achèvent et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.